Pour introduire notre étude de ce matin, je voudrais que nous lisions ensemble un passage bien connu dans la seconde épître de Pierre. Seconde épître de Pierre, au premier chapitre, les versets 16 à 21. Je lis dans la Bible de Jérusalem, non pas que je trouve que cette traduction soit la meilleure, mais c'est celle que j'ai apportée avec moi. Je trouve commode de l'apporter en voyage. Ce n'est pas en effet en suivant des fables sophistiquées que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais après avoir été témoins oculaires de sa majesté. Il reçut en effet de Dieu le Père honneur et gloire, lorsque la gloire pleine de majesté lui transmit une telle parole, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé qui a toute ma faveur. » Cette voix, nous l'avons entendue, elle venait du ciel, nous étions avec lui sur la montagne sainte. Ainsi nous tenons plus ferme la parole prophétique. Vous faites bien de la regarder comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'astre du matin se lève dans vos cœurs. Avant tout, sachez-le, aucune prophétie d'Écriture n'est objet d'explication personnelle. Ce n'est pas d'une volonté humaine qu'est jamais venue une prophétie. C'est poussé par l'Esprit Saint que des hommes ont parlé de la part de Dieu. J'ai pour mission de commenter parmi vous, d'après les dépliants qui vous invitaient, les points les plus controversés de la confession de foi des GBU. Quels sont ces points les plus controversés? Il n'est pas si facile de les désigner, car en fait, des controverses ont éclaté au fil des siècles à propos de chacun des 7 articles de la confession de foi. J'espère que j'ai le bon texte de la confession de foi. Je l'ai pris dans un ancien numéro de chantier, et j'espère qu'il n'a pas changé. Il y a d'ailleurs une bonne raison pour ce fait. En général, on ne définit un point de doctrine que lorsqu'une hérésie a suscité des polémiques à son propos. Tant que tout le monde admet la vérité en cause, nul n'éprouve le besoin de l'écrire noir sur blanc dans un texte sur lequel on doit se mettre ensuite d'accord. C'est une vérité universellement admise, alors on ne fait pas d'histoire. C'est lorsqu'une controverse se déclare qu'il faut prendre position. Et il n'est donc pas surprenant que finalement, à propos des 7 points de la confession de foi, il y ait eu des controverses. Peut-on concentrer davantage en disant les points les plus controversés? On ne gagne pas grand-chose, car il faut s'enquérir aussitôt dans quel cercle et avec quels interlocuteurs. Ce ne sont pas les mêmes points que débattent le plus passionnément deux théologiens évangéliques ou que vous avez, vous, responsable GBU, par exemple, à discuter le plus avec des camarades incroyants qui sont quand même déjà un peu informés, qui, trouvant la base GBU, veulent en contester tel ou tel point. Tout dépend donc de l'orientation même des controverses auxquelles on pense. Alors j'ai résolu mon problème de choix, puisque j'avais à choisir 3 points de la confession de foi pour mes 3 réunions, en prenant tout bonnement les 3 premiers articles de la confession de foi. Je crois qu'ils nous permettront d'évoquer des discussions de type très différent. C'est un peu tous les azimuts que nous pourrons choisir de cette manière et d'une façon qui, je l'espère, sera profitable pour nous tous. Alors, le premier article pour ce matin, par conséquent. Le premier article énonce notre position sur la Bible. Et je le lis tout d'abord. Nous croyons que l'Écriture sainte est divinement inspirée et entièrement digne de confiance, que son autorité seule est souveraine dans toutes les questions touchant à la foi et à la vie. Je vois que plusieurs notes, donc ils ne doivent pas avoir le texte de la confession de foi avec eux, cousu dans la doublure de leur pourpoint comme Pascal son mémorial, alors je la relis. Nous croyons que l'Écriture sainte est divinement inspirée et entièrement digne de confiance, que son autorité seule est souveraine dans toutes les questions touchant à la foi et à la vie. Nul doute que pour ceux du dehors, par rapport au mouvement GBU, ceux du dehors, en particulier dans le monde religieux, dans la chrétienté en général, nul doute que cette proposition soit la grande singularité des GBU. Ce soit cette position énoncée dans le premier article qui distingue le plus, le mieux, notre mouvement des mouvements comparables, comme des mouvements d'étudiants catholiques ou comme la FEDE, comme on l'appelle en France, les associations chrétiennes d'étudiants, je crois qu'on dit plutôt ACE en Suisse, mouvement d'étudiants protestants. Et c'est certainement cette première proposition sur l'Écriture sainte qui constitue la cible des attaques les plus fréquentes et parfois des plus railleuses de ceux qui ne sont pas d'accord. La pression est si forte contre la position ici énoncée que la tentation est toujours présente à l'intérieur même du camp d'émousser le tranchant de cette proposition. Et je crois que ce n'est pas trahir un secret que de dire que dans la vie de pratiquement tous les mouvements GBU dans le monde, il y a périodiquement des tentatives faites par quelques-uns de relâcher la rigueur de ce que ce premier article définit. Je commenterai en reprenant trois points dans les termes mêmes de la confession de foi. Je vous annonce mon plan. En premier lieu, l'Écriture sainte est divinement inspirée. Que voulons-nous dire par là? En second lieu, elle est entièrement digne de confiance. Et en troisième lieu, son autorité seule est souveraine. L'affirmation qui vient en tête, et qui le mérite bien, car c'est l'affirmation principale, l'Écriture sainte est divinement inspirée, n'est cependant pas la plus contestée. Et je crois qu'on peut dire qu'en tête de chrétienté, presque tout le monde en admet les termes, et que vous trouveriez pratiquement tout le monde d'accord si vous deviez demander, vous êtes d'accord, l'Écriture est divinement inspirée pour vous, parlant à des gens qui professent la foi chrétienne ou disent être chrétien. La raison, c'est qu'on peut la mettre à pratiquement toutes les sauces, que la formulation de ce premier membre de l'article est divinement inspirée peut rester très vague dans beaucoup d'esprits. Le mot d'inspiration, on l'emploie, vous le savez, de façon assez diverse, en dehors de la théologie, de la doctrine chrétienne. On parle de l'inspiration de Lamartine, une inspiration idéologique quelconque sur tel ou tel mouvement. Le mot d'inspiration peut signifier vague influence, déterminant d'une manière assez partielle. Alors je crois que pratiquement tout le monde est d'accord, si on donne un sens aussi vague au terme d'inspiration, pour dire la Bible est divinement inspirée. Dieu a eu une part, il a au moins influencé la rédaction de ce livre. Seulement, la base GBU n'emploie pas la formule avec si peu de précision. À coup sûr, si la base GBU énonce l'Écriture sainte divinement inspirée, elle le fait en se rappelant le texte fondamental de l'apôtre Paul dans la seconde épître à Timothée au chapitre 3 et au verset 16. Le seul passage de l'Écriture qui emploie le terme inspiré, divinement inspiré, l'expression divinement inspirée dans nos traductions. Toute Écriture est divinement inspirée et alors, je suis utile pour la répréhension, la correction, etc. C'est le seul passage qui emploie l'expression. Et en fait, la traduction n'en est pas extrêmement rigoureuse. Ce qui peut être déjà une leçon très intéressante que la Bible n'emploie le terme d'inspiration pour l'écriture qu'une seule fois, et cela dans nos traductions, qui ne sont pas très rigoureuses, sur ce verset, dans ce verset. Car ce que l'original n'a pas, et que nos traductions ajoutent, c'est le préfixe « un », qui suggère que nous avons un ensemble, si vous voulez, d'écriture, et puis que Dieu y projette, souffle à l'intérieur son esprit, divinement inspiré, de telle sorte que l'esprit de Dieu est à l'intérieur et agissant à l'intérieur de cet ensemble. Le préfixe n'est pas dans le texte, n'est pas dans l'original. Dans l'original, vous avez un seul mot, pour remplacer les deux, divinement inspiré, et sans le préfixe, hein, littéralement, vous avez théopneustos, déo déispiré, plutôt expiré, soufflé, produit par le souffle, que inspiré. L'image n'est pas du tout celle d'un ensemble au sein duquel le souffle de Dieu viendrait se mouvoir. Pas du tout cette image-là. C'est l'image de celui qui parle et qui projette par son souffle la parole qu'il émet, dont le souffle porte le discours. Et l'expression que nous avons dans ce passage de 2 Timothée 3,16, finalement équivaut à la formule « l'Écriture sainte est la parole de Dieu » et est une parole émise par Dieu, avec une insistance sans doute particulière sur le rôle de l'esprit. Car évidemment, lorsqu'on traduit « souffle » au lieu d'esprit, on emploie une autre traduction légitime, des termes originaux. Vous savez qu'il n'y a qu'un seul terme qu'on peut traduire de ces deux manières, soit dans le grec du Nouveau Testament, soit dans l'hébreu de l'Ancien. Mais bien sûr, il y a plus dans le mot que la simple image du souffle. Le souffle divin est un souffle qui est une personne. Et ainsi, lorsqu'on dit porté par le souffle de Dieu, produit par le souffle de Dieu, on dit plus simplement que parole de Dieu, on veut dire par l'action particulière du Saint-Esprit, agissant pour que cette parole soit émise. Je pense qu'on peut dire qu'il y a un double arrière-plan. Cette notion de l'inspiration, qui vous en rendez compte, et implique un statut extrêmement élevé pour l'Écriture sainte. Un double arrière-plan. Il y a d'abord le thème général, très important dans toute la Bible, du lien entre l'esprit et la parole. On le trouve dès la première page de la Bible. Dans la création même, esprit et parole sont étroitement associés. Dieu dit, mais l'esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux, et c'est leur action conjointe qui produit le monde et toute son harmonie et toute son organisation. D'après l'étude d'un théologien qui a GBU, anglo-saxon, il est même très possible que le « nous » de Dieu, à la fin du premier chapitre, « faisons l'homme à notre image », représente le dialogue de Dieu avec son esprit, qui a été mentionné au second verset du chapitre. Nous pourrons en reparler ce soir, quand nous étudierons le second article de la Confession de foi. Et ce n'est pas seulement à la première page, c'est tout au long de l'Écriture que l'esprit et la parole sont étroitement associés. Vous savez, si je ne me trompe, le psaume 33, j'espère ne pas faire d'erreur de référence. Vous avez aussi l'accent très fortement marqué dans le Nouveau Testament sur le fait que l'Esprit Saint, l'Esprit qui est de Dieu, œuvre par la parole et avec la parole. Alors que les esprits en œuvre dans les religions idolâtres sont des esprits muets, des forces qui entraînent, qui font faire des expériences sensationnelles sans doute, mais dans la pénombre d'un mysticisme malsain, l'esprit qui œuvre dans le christianisme authentique, c'est un esprit de parole. Et l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu, comme dit l'Épître aux Éphésiens. Ça, c'est, je dirais, le premier arrière-plan pour cette notion d'inspiration. L'Écriture et la parole de Dieu, produite par l'Esprit de Dieu. Et le second arrière-plan, alors, c'est tout ce qu'il faudrait développer sur le sens biblique de l'office prophétique et de l'office apostolique. L'Écriture sainte, elle vient à nous comme un livre, après un intervalle de 19 siècles. Mais avant ça, c'est des prophètes qui parlent, c'est des apôtres qui prêchent. Au fond, ce que nous avons là, c'est la trace permanente des discours des prophètes et des apôtres. Et on peut dire que l'Écriture sainte, sans contredit possible, est la parole prophétique et apostolique. Les deux notions, d'ailleurs surtout celle de prophétie, étant susceptible d'une assez grande extension. Le prophète, c'est celui qui parle au nom de Dieu, d'après l'étymologie même. Prophémi, je parle pour, à la place de. Le prophète n'est pas bien sûr seulement le prédiseur, vous le savez, mais n'est même pas seulement celui qui a écrit dans cette partie du canon qu'on appelle les prophètes, les grands prophètes, les petits prophètes. On peut dire que pratiquement tous les auteurs bibliques peuvent être considérés comme prophètes au sens large. D'ailleurs, Abraham est appelé prophète, déjà dans la Genèse. Moïse s'appelle prophète, il annonce la venue d'un prophète tel que lui. David est appelé prophète par Pierre, par exemple, dans son discours du jour de la Pentecôte. Daniel, qui était un homme d'État, est appelé prophète par Jésus. On peut donner au mot prophète un sens assez large, qui finalement englobe tout l'Ancien Testament, et je dirais par extension le Nouveau. C'est dans ce sens large, sans doute, qu'il faut prendre l'expression prophétique dans le passage de la seconde de Pierre que nous avons lu ensemble. Toute prophétie d'écriture, tenir ferme la parole prophétique, etc. Et en ce qui concerne le Nouveau Testament, alors on préférera employer l'adjectif apostolique, parole apostolique, plutôt que prophétique, parce que les prophètes du Nouveau Testament, qui sont responsables de l'ensemble néo-testamentaire, sont en plus les associés de Jésus-Christ, les ambassadeurs du Seigneur lui-même, qui ont été avec lui et qu'il a spécialement envoyé. L'apôtre, en un sens, c'est un prophète, mais c'est un prophète avec un privilège spécial. Il a été associé à la venue du Fils, à tout le ministère et à la résurrection du Seigneur. Avec l'exception de Paul, qui est un apôtre. En plus, par grâce particulière, lui qui n'a pas suivi Jésus sur les routes de Palestine, mais qui a cependant vu le Seigneur ressuscité. L'apôtre du Nouveau Testament parle au nom de Dieu, mais au nom de Dieu venu sur la terre, en la personne de Jésus. Et c'est là la notion d'apôtre, l'ambassadeur plénipotentiaire du Seigneur. Et comment il l'est ? Il n'est pas seulement par son contact physique avec Jésus lorsqu'il l'a accompagné, et par son privilège de témoin oculaire, que Pierre souligne dans le passage que nous avons lu, je vous le rappelle. Parce qu'il y en a eu d'autres qui ont accompagné Jésus, qui n'ont pas été apôtres. En plus, il y a le don particulier du Saint-Esprit. Les apôtres sont faits apôtres par l'Esprit, et tout le ministère apostolique est décrit par l'apôtre Paul dans la seconde aux Corinthiens au chapitre 3 comme le ministère de l'Esprit. Il le contraste avec le ministère de Moïse, qui certes agit par l'Esprit, mais qui ne pouvait écrire la loi de Dieu que sur des tables de pierre, alors que l'apôtre, dans la Nouvelle Alliance, écrit la loi de Dieu sur des tables de chair, sur les cœurs. Le prophète et l'apôtre sont des hommes de l'Esprit. On les trouve parfois appelés comme cela. C'est l'Esprit qui saisit le prophète et le fait parler. C'est l'Esprit qui doue celui qui a été avec Jésus pour qu'il puisse rendre témoignage à Jésus avec la pleine autorité du Seigneur. Que le Christ parle par lui. Encore une fois, le passage que nous avons lu dans la seconde épître de Pierre marque bien, je crois, ce que je veux dire, le résume très bien. Ce n'est pas par une volonté humaine qu'est jamais venue une prophétie, pas d'initiative humaine, mais c'est poussé ou porté par l'Esprit Saint que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Ils ont parlé de la part de Dieu, pas en leur nom propre, ni initiative, ni responsabilité dernière de leurs paroles, responsabilité certes, mais pas dernière. Ils ont parlé de la part de Dieu, en son nom, ainsi parle l'Éternel, le Christ parle par ma bouche, et cela grâce au ministère de l'Esprit Saint, œuvrant en eux. Et en quelque sorte, les pénétrant de telle sorte qu'ils émettaient ce que Dieu voulait qu'ils émettent en son nom. Rien n'est dit lorsqu'on a souligné cette notion d'inspiration, j'espère que ce que je viens de dire suffit pour le principal, rien n'est dit sur le mode de cette inspiration. Rien n'est dit sur la manière dont Dieu s'y est pris, dont le Saint-Esprit œuvre pour que la parole produite puisse être dite vraiment parole de Dieu. L'entière rigueur de l'attribution à Dieu des paroles émises, le fait qu'on puisse dire ce que les prophètes et les apôtres dans l'exercice de leur office ont dit est parole de Dieu, cela ne permet en rien de préjuger la question du mode. Je souligne cela parce que très souvent, nos interlocuteurs font une confusion ici. Ils se disent, oh, mais si vous prétendez que tout ce que Paul a dit, c'est Christ qui le disait par lui, alors finalement, Paul n'est plus qu'une marionnette, Dieu l'utilisait comme on utilise une machine à écrire, etc. Cette question est une question entièrement distincte de la première. La question du mode, la manière dont Dieu s'y prend, pour que l'Esprit fasse faire ce que Dieu veut que les hommes fassent, est une question distincte du fait qu'il s'est arrangé pour le faire d'une manière ou d'une autre. Quel a été le mode de cette inspiration prophétique ou apostolique? Il est très difficile de le dire, et je crois que nous devons avouer que nous ne démontrerons jamais avec précision cette affaire. Nous ne pouvons pas remettre en lumière tous les rouages. Il y a un texte qui nous dit clairement que Dieu s'y est pris diversément. C'est dans le prologue de l'Épître aux Hébreux qu'il nous est dit que c'est de plusieurs manières que Dieu a parlé à nos pères par les prophètes. Nous pouvons, je crois, à coup sûr dire Dieu s'y est pris de façon diverse. Maintenant, quels ont été les extrêmes dans cette diversité? Il semble bien, nous n'avons, je crois, pas à protester, que dans certains cas, Dieu a pu faire émettre des paroles dans un état relativement passif de son messager. Dans certains cas, il a pu prendre quelqu'un et en quelque sorte lui faire dire, en utilisant son gosier, mais pratiquement pas son cerveau, ce qu'il voulait qu'il dise. Certains cas de prophètes de l'Ancien Testament, lorsque l'Esprit de Dieu saisissait le prophète et le faisait rouler par terre, ou c'est sans doute une inspiration de ce mode-là qu'il faut envisager. Mais cela paraît plutôt l'exception. Et en général, déjà dans l'Ancien Testament, il semble que le mode que Dieu a choisi était un mode plein de tact, d'une infinie souplesse, qui a été telle que le messager a émis, en même temps qu'il émettait la parole de Dieu, sa propre parole, en y réfléchissant, en y mettant vraiment du sien, je dirais, en s'y mettant lui-même entièrement. C'était ce qu'il avait compris, découvert, saisi, avec toute la passion de son âme, qu'il proférait. Dieu est assez habile, lui qui nous a fait entièrement, lui par qui nous subsistons en tous les éléments de notre personnalité. Il est assez habile pour nous faire agir sans nous violer. Il est assez habile pour nous faire dire ce que nous devons dire de sa part, sans pour cela nous forcer, nous contraindre, nous distordre. Dieu peut au contraire nous épanouir pleinement dans une entière et stricte dépendance. C'est là qu'il y a vraiment épanouissement. Et s'il a rempli de son esprit prophètes et apôtres pour leur faire dire sa parole, ça ne signifie absolument pas que ces apôtres et ces prophètes étaient transformés en simples objets ou en robots, en marionnettes. Dieu a su les utiliser de telle manière que vraiment ils ont en même temps proféré leurs paroles. Preuve pour cela, eh bien d'abord ce que nous voyons dans les textes bibliques eux-mêmes. Nous voyons la personnalité des différents auteurs apparaître très clairement. Ils ont été des auteurs, même s'ils ne sont pas les seuls auteurs. Ils ont été des auteurs, on reconnaît très bien le style de l'un ou de l'autre. Et Paul par exemple peut dire à propos d'un texte d'Ésaïe, Ésaïe s'enhardit jusqu'à... Il parle de la hardiesse d'Ésaïe lorsqu'il souligne le péché du peuple, lorsqu'il souligne les démarches imprévisibles de Dieu. Il y a à la fois hardiesse de la part de l'auteur humain, qui est vraiment lui-même dans le processus, et puis pleine transparence, disons, à l'intention divine, qui fait émettre sa propre parole par cet Ésaïe. De telle sorte que cet Ésaïe pouvait dire, en toute rigueur, ainsi parle l'Éternel. Voilà ce qu'il faut dire, me semble-t-il, sur le premier point. La confession de foi ajoute immédiatement, entièrement digne de confiance. Cet ajout n'est rendu nécessaire que par les édulcorations malheureuses qu'on inflige à la notion d'inspiration. Si tout le monde reconnaissait la notion d'inspiration telle que nous venons de la découvrir dans l'Écriture, en résumant très vite, bien sûr, il ne serait pas nécessaire d'ajouter entièrement digne de confiance. C'est une chose qui devrait être assez évidente. Une parole proférée par Dieu est entièrement digne de confiance. Ou alors, on ne sait pas ce qu'on dit. Seulement, à cause des incertitudes qui affectent maintenant le terme d'inspiration, il faut préciser, malheureusement, dans les confessions de foi, il faut aller un peu plus loin et bien dire, ah, ça veut dire entièrement digne de confiance. Et là encore, le terme clé, c'est le terme entièrement. Parce que digne de confiance, d'une manière vague et générale, encore tout le monde serait à peu près d'accord pour le dire. Mais entièrement digne de confiance. Quelle est la base biblique pour cette affirmation qui précise la première ? Outre l'évidence, si vraiment toutes ces paroles sont paroles de Dieu, alors elles sont dignes de confiance. Outre cette évidence, nous pouvons nous appuyer sur des déclarations expresses et sur la pratique de Jésus et des apôtres. Déclaration expresse, eh bien, je pense au psaume 19, au psaume 119, par exemple, qui ne se lasse pas de répéter, entièrement éprouvé, plus raffiné que leur fin, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi cette insistance? Tes paroles sont toutes pures. Sinon, pour dire qu'il n'y a vraiment pas la moindre scorie, il n'y a pas la moindre petite chose qui pourrait, disons, nous induire en erreur. Pas la moindre petite chose que l'on pourrait trouver à contester, à juste titre, dans les paroles de Dieu reçues dans l'Écriture. Il y a des déclarations expresses de ce type. Et dans les paroles de Jésus lui-même, on peut citer celle du chapitre 10 de l'Évangile selon saint Jean. Lorsque Jésus s'appuie sur une paroles qui auraient pu sembler insignifiantes d'un psaume assez peu populaire, disons, un psaume qui réprouve les mauvais juges. Dieu dit, j'avais dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez tous comme le vulgaire, comme les princes, comme les hommes que vous êtes. J'avais dit, vous êtes des dieux, c'était une allusion au statut de vice-dieu, en quelque sorte, que possèdent les magistrats, les princes, ceux qui sont établis pour juger, et qui ne le font qu'en vertu d'une délégation de pouvoir de la part de Dieu. Doctrine qu'on trouve élaborée dans Romains 13, par exemple. Vous avez dit, vous êtes des dieux, mais vous avez trahi votre mandat, et vous périrez comme les hommes de chair que vous êtes. Jésus va chercher cette parole, j'avais dit, vous êtes des dieux, pour coincer ses adversaires. Je crois qu'il a de profondes arrière-pensées là, mais je n'ai pas le temps de développer. Coincer ses adversaires qui refusent absolument l'idée qu'il pourrait être plus qu'un homme lui-même, qui ont fait un tel gouffre entre Dieu et l'homme, qu'ils ont oublié la doctrine de la création en image de Dieu, qu'ils ont oublié l'honneur que Dieu veut faire à l'humanité, toutes choses qui sont à prendre en ligne de compte lorsqu'on envisage l'incarnation du Fils de Dieu. Alors Jésus va chercher ce passage, et puis il dit à ses interlocuteurs, en s'appuyant sur cette seule parole, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? La loi appelle donc des dieux ceux à qui s'adressait la parole de Dieu, et on ne peut abolir l'Écriture, ou si l'Écriture ne peut être dissoute, déliée littéralement. Jésus s'appuie sur une seule petite parole, l'emploi d'un mot, et on ne peut pas délier cela. Quelque chose qui tient. Déclarations expresses, me semble-t-il. Vraiment entièrement digne de confiance. une erreur, ça me paraît l'évidence, ne serait pas digne de confiance. S'il y avait une erreur sur un point particulier, sur ce point particulier, il ne faudrait pas donner sa confiance, mais au contraire, dire non, entièrement digne de confiance. Et puis la pratique. L'exemple que je viens de donner est un exemple de pratique aussi. Jésus s'appuie sur ce petit détail du psaume. Mais ailleurs aussi, vous le voyez discuter avec ses adversaires, constamment il s'appuie sur tel ou tel élément de l'Ancien Testament, sans jamais marquer le moindre doute quant à l'autorité de cet Ancien Testament. Il montre une royale liberté, la liberté du Fils, dans l'interprétation. Il montre comment, dans la loi de Moïse, il y a des dispositions temporaires, par exemple, et qui ont été instituées à cause de la méchanceté du cœur des hommes pour la théocratie d'Israël, la loi sur le divorce, par exemple. Mais nulle part, vous ne trouvez Jésus remettant en cause le moindre renseignement que l'Ancien Testament nous fournit. Et au contraire, il s'appuie sur tel ou tel élément, même parfois de détail. Et c'est la même chose ensuite pour tous les apôtres, pour Paul qui souligne le singulier dans la promesse à Abraham, ta postérité, pas tes postérités, ta postérité. Et on pourrait multiplier les exemples, vous les connaissez. Je dirais que les déclarations expresses et la pratique exégétique des hommes de la Bible nous montrent qu'en effet nous devons confesser l'Écriture sainte si nous voulons les suivre. Et qu'est-ce qu'être chrétien autrement ? Nous devons dire l'Écriture est entièrement digne de confiance. Pourquoi faut-il cependant le marquer ? Eh bien, tous ne suivent pas cet exemple de Jésus et des apôtres. Bien qu'il y ait eu des précédents historiques, on peut dire en gros que depuis le XVIIIe siècle, nous sommes entrés dans ce qu'on appelle l'ère critique, et que beaucoup de chrétiens, ou des hommes qui portent le nom de chrétiens, refusent à l'Écriture sainte cette entière confiance que la confession de foi des GBU veut continuer de leur accorder. Dans le protestantisme majoritaire, depuis, disons, le XIXe siècle, le mouvement a commencé au XVIIIe, et maintenant aussi assez largement dans le catholicisme, c'est une position très différente qui prévaut. Au lieu d'une confiance entière, c'est une attitude de jugement, c'est ce que veut dire le mot critique, qui paraît légitime. En face des déclarations de la Bible, l'homme reçoit le droit, l'homme moderne, avec son savoir, reçoit le droit de trier dans les déclarations d'Écriture entre ce qui est vraiment digne de confiance et ce qui ne l'est pas. Ce qu'on appelle faire de la critique, pas la critique textuelle. La critique textuelle, c'est juste l'évaluation de la qualité des manuscrits. L'original a-t-il été bien transmis? Mais la critique, qu'on appelle parfois haute critique, critique littéraire ou critique théologique, c'est une position majoritaire qui a été maintenue même chez ceux qu'on appelle parfois les néo-orthodoxes et dont la domination a été assurée de 1930 à peu près jusqu'à 1950 ou 55 dans nos pays de langue française. Chez ces néo-orthodoxes, il y a eu un effort de réaction contre le mépris de la Bible dans lequel on était tombé avec le libéralisme critique avant eux. Il y a eu un mouvement de retour à la Bible, d'exaltation de son autorité et une prédication bien plus conforme, à coup sûr, au contenu de la Bible que ce qu'on avait entendu aux alentours de 1900. Mais même chez les néo-orthodoxes, le théologien le plus fameux du groupe étant Karl Barth, il n'y a pas eu abandon radical de l'attitude critique. Et il n'y a pas eu retour à une entière confiance dans l'Écriture sainte. Tout en affirmant l'autorité de la Bible, Barthes a affirmé qu'elle contenait pourtant de multiples erreurs, de détails, et même théologiques. Et il faisait confiance non pas tant au jugement des spécialistes pour déterminer ce qui est parole de Dieu et ce qui ne le serait pas, ou ce qui serait digne de confiance, ou ce qui ne le serait pas, mais plutôt à une espèce éblouissement, une illumination de l'instant lorsque la parole de Dieu retentit et qu'elle me saisit dans ma lecture de l'Écriture sainte. Sa
formule clé, je crois, c'est que l'Écriture devient la parole de Dieu, quand et où Dieu le veut. Mais en elle-même, elle est pleine, pas pleine quand même, mais elle est marquée par un nombre d'erreurs considérables. Et en général, il ne dit pas dans son énorme dogmatique, quand il s'oppose à tel ou tel texte de l'Écriture, en général, il se tait. Mais quand même, sur certains points, il a marqué son opposition à tel ou tel passage du Nouveau Testament, sur les démons par exemple. Malgré tout son amour de la Bible, car il y avait un amour de la Bible chez lui, je crois qu'on ne peut pas le nier, il n'est pas revenu à l'entière confiance. Mais il a admis cette liberté laissée à l'homme, devant l'Écriture sainte, dire ceci est en erreur, ceci ne l'est pas. Les arguments de ces hommes, de tous ceux qui refusent une entière confiance à l'Écriture, je pense que vous les connaissez plus souvent. En gros, ils disent, lorsqu'on quitte l'attitude naïve des générations qui nous ont précédées et qui gobaient tout comme ça, on s'aperçoit qu'il y a tout plein d'erreurs dans la Bible, des tas de contradictions, des doublets, la même histoire nous est racontée une deuxième fois avec des éléments qui contredisent la première version, mais c'est deux doublets de la même histoire. Il y a des oppositions théologiques entre tel ou tel courant. Certains voient beaucoup d'erreurs, d'autres en voient un peu moins. En gros, c'est cette attitude. Lorsqu'on voit les choses d'un œil critique, d'un œil averti, eh bien on trouve des erreurs presque à chaque page. Voilà en gros l'argumentation qui se développe. Je répondrai en trois points à ce plaidoyer. Je vous donne plutôt un schéma que quelque chose de développé. Je dirais qu'en premier lieu, les critiques peuvent et doivent être critiqués eux-mêmes. Qu'ils font preuve d'une très grande naïveté épistémologique. Qu'ils ne prennent pas garde en général aux présupposés de leur propre approche de l'Écriture. Présupposés positivistes pour les anciennes écoles, présupposés de type nouveau pour des écoles plus récentes, mais ils affichent souvent une prétention à la neutralité scientifique dans l'abord de la Bible qui est tout simplement du bidon que nous devons, disons, dégonfler. Il y a une optique générale qui doit gouverner toute approche de l'Écriture sainte, et celui qui approche l'Écriture sainte avec une autre optique que celle du christianisme authentique, bien, fatalement tombera sur ce qui lui semblera énorme, impossible à admettre, erreur, etc. Mais il s'agit là des présupposés. Il s'agit là, au fond, de l'orientation de foi au départ. Et toujours à propos de la critique des critiques, on pourrait aussi noter quelque chose d'assez remarquable. Les progrès de l'archéologie depuis les beaux jours de la critique, qui se situent, je dirais, à la fin du XIXe siècle, depuis l'époque où la critique était la plus radicale, surtout pour l'Ancien Testament, les progrès de l'archéologie ont permis la réfutation, un nombre très important de fois, des thèses critiques. On prétendait la Bible en erreur, et puis une meilleure connaissance des choses a permis d'une part de mieux la comprendre, et d'autre part de voir que les théories admises chez les critiques étaient fausses. Les exemples sont légions de ce type. Tout n'est pas résolu, n'est-ce pas? Mais, à coup sûr, le progrès de l'archéologie, qui a été énorme depuis un siècle, a amené un reflux des thèses critiques, un reflux des accusations contre la véracité des textes bibliques. En second lieu, je dirais que, bien sûr, il reste des difficultés. Il reste des apparences d'erreurs. Cela n'est pas niable dans l'Écriture sainte. Lorsque nous lisons avec notre savoir et notre ignorance, nous croyons comprendre, et il me semble que ça ne colle pas. Oui, ça arrive un certain nombre de fois. Alors je dirais à propos de ce certain nombre de fois, que ces apparences d'erreur ne sont ni si nombreuses, ni si invincibles qu'elles puissent renverser ce qui est bien établi d'autre part. Ce sont des difficultés, ce ne sont pas des objections qui ont un poids suffisant pour renverser
l'affirmation que nous avons vue fondée dans la foi en Jésus-Christ et au témoignage apostolique. Il y en a, mais finalement, vous savez, il n'y en a pas tellement. Bien sûr, il y en a un certain nombre qui continuent de me gêner. Mais, au bout du compte, je trouve que c'est bien peu. Quand je songe à mon ignorance du milieu biblique, du sens des expressions, parfois des genres littéraires employés, quand je songe à tout ce qui reste encore à découvrir, il y a peut-être la millième partie des tablettes intéressant l'histoire du Moyen-Orient ancien qui ont été exhumées. Or, chaque fois qu'on fait une découverte de tablette, ça bouleverse tout, les gens s'excitent pendant au moins une dizaine d'années, tous les schémas sont remis en cause, ces schémas à partir desquels on déclare erreur ici ou erreur là. Alors je trouve finalement que le nombre des erreurs qui, les apparences d'erreurs qui subsistent, pas si considérable. Et en général, pour celles qui subsistent, il y a des explications plausibles. Je ne dis pas que ces explications soient toujours extrêmement convaincantes à première lecture. Mais nous n'avons pas à exiger cela. Je pense qu'il y a des scientifiques parmi vous qui connaissent ce phénomène. Il peut y avoir des apparences de contradiction de telle théorie qui est pourtant solidement établie. Bon, on essaie d'expliquer, on n'a pas tout à fait bien trouvé, mais enfin, ça ne renverse pas la théorie. Simplement l'existence d'une difficulté. Tant qu'on a quelque chose de plausible, et puis si on n'a rien de plausible même, on met entre parenthèses en attendant d'en savoir plus. Troisième point, et à propos du résidu, de ces choses vraiment pour lesquelles nous n'avons pas d'explication plausible, ces apparences d'erreurs qui pourraient subsister. Eh bien, je crois que c'est une occasion d'exercer la foi. Nous marchons par la foi et non par la vue, en cette affaire aussi. Qu'est-ce que la foi, au fond? C'est le choix des yeux du Maître plutôt que mes yeux. Je crois que Jésus y voit mieux que moi. Alors, à moi, bien sûr, ça paraît une erreur. Mais je ne marche pas par la vue, je marche par la foi, je marche par la confiance dans le jugement de mon Maître. Il n'y a pas de doute, et je crois que c'est un point qui n'est pas contesté, que Jésus a traité l'Ancien Testament comme un texte entièrement digne de confiance. Et qu'il a donné à ses apôtres des promesses qui permettent de couvrir l'Ancien Testament, de couvrir le Nouveau Testament du même privilège. Alors je crois, je fais confiance à mon Seigneur pour ces points qui subsistent. Il y a assez d'obscurité pour que ceux qui ne veulent pas croire refusent leur entière confiance aux Écritures, mais il y a assez de lumière, quelle lumière, pour que ceux qui veulent voir puissent reconnaître la signature du bon berger, pour changer un peu l'image de Jésus. Troisième point dans la confession de foi, et je vais me hâter un peu, son autorité seule est souveraine. Son autorité seule est souveraine dans toutes les questions touchant à la foi et à la vie. L'autorité, c'est le pouvoir et le droit de commander un comportement ou un comportement de l'esprit, l'adhésion à telle ou telle pensée. L'autorité est une conséquence immédiate, évidente, comme la sûreté dont il était question au paragraphe précédent, de la divine inspiration de l'Écriture, au sens fort que nous devons donner à ces termes. Ce n'est pas la seule conséquence, le seul corollaire y apparaît immédiatement, il y a aussi l'utilité que souligne 2 Timothée 3,16. Elle est utile pour tant de choses, que l'homme Dieu de Dieu soit équipé et propre à toute bonne œuvre. Il y a aussi la vie permanente de cette parole et le dynamisme qu'elle a dans sa réception dans nos cœurs. Mais enfin, l'autorité, c'est une des conséquences que l'Écriture elle-même met en relief et qui est très proche de la sûreté, entièrement digne de confiance et faisant pleinement d'autorité, ça va ensemble. Parce que lorsque vous accusez un texte d'erreur, vous ne lui faites pas confiance et en même temps vous lui désobéissez. Vous vous dégagez de son autorité. Si la confession de foi souligne que l'autorité seule est souveraine, seule et souveraine, c'est sans doute pour exclure l'illuminisme. L'illuminisme, c'est l'hérésie, la déviation, qui conjugue à l'Écriture sainte une autre autorité qui est placée sur le même pied ou même à un rang supérieur. Lorsque l'illumination d'un chef de secte, une Mrs. Baker Eddy pour la science chrétienne par exemple, ou d'autres sectes, il y a eu des illuminés, des illuministes tout au long de l'histoire, est placée à un rang d'autorité semblable à celui de l'Écriture, finalement l'autorité de l'Écriture est battue en brèche, ce n'est plus la parole de Dieu qui gouverne, qui enfante et qui gouverne l'Église, mais la subjectivité humaine qui prend le relais. Seule souveraine combat l'illuminisme. Mais attention, il n'y a pas que l'illuminisme du type sectaire, du type échevelé, du type à grande sensation. Il y a aussi l'illuminisme de type institutionnel. Lorsqu'on pense que ce n'est pas l'illumination d'un individu, mais d'une institution qui peut être placée au même rang d'entière autorité, pleine confiance, pleine sûreté que l'Écriture sainte, on s'oppose à ce que la confession de foi ici affirme, et je crois que l'on met en cause l'entière autorité de l'Écriture sainte, qu'on ne lui donne pas la place de parole seigneuriale qu'elle doit avoir dans la vie du chrétien. L'illuminisme institutionnel, c'est celui dont la Réforme a accusé le catholicisme de l'époque, en tout cas, et qui semble bien subsister dans le dogme officiel, dans la mesure où il y a un magistère infaillible qui déclare séparément de l'étude biblique ce qu'il faut entendre de la Bible, une autorité se conjugue et se superpose à celle de la Bible. On ne voit pas comment on pourrait dire les choses autrement. Je souligne un point important, c'est que souvent cet illuminisme se cache quelque peu, qu'il réussit à se déguiser de façon assez subtile, et que c'est au niveau de l'herméneutique, c'est-à-dire de l'interprétation de la Bible, qu'il exerce ses ravages. C'est un peu le cas d'ailleurs déjà dans la doctrine officielle du magistère. On nous dit, ah mais bien sûr l'Écriture sainte est l'autorité souveraine, c'est la seule parole de Dieu. Seulement pour la comprendre, vous devez passer alors sous l'autorité de M. Untel, prophète patenté, de l'institution ecclésiastique, pour la comprendre. Et en fait, vous domestiquez ainsi cette parole de Dieu qui n'est pas liée, qui ne veut pas être liée. Alors, se méfier de ce qu'on pourrait appeler un illuminisme à propos de l'interprétation biblique. Le texte que j'ai ici, donc sous les yeux, ajoute cette précision dans toutes les questions touchant à la foi et à la vie. Bon, c'est une précision pas très précise, une précision qui ouvre un champ extrêmement vaste, puisque toutes les questions qui touchent à la foi et à la vie, qui touchent à, ça ne laisse pratiquement rien au dehors. Pourquoi cet ajout dans le texte de la confession de foi GBU ? Je ne crois pas que les auteurs aient voulu dire que l'Écriture n'est pas souveraine quand elle tranche, par exemple, un point de géographie, quand elle nous dit telle ville est à côté de telle autre. D'ailleurs, la géographie touche de très près à notre foi en bien des affaires, en bien des matières, puisque notre foi est fondée sur des faits historiques qui se sont passés ici, non pas là, ça touche à, au moins. Je pense que si cette précision a été ajoutée, pour souligner dans quel domaine l'Écriture nous parle ordinairement les questions qui touchent à la foi et à la vie, c'est pour préserver la parfaite rigueur de la terminologie de cet article, de ce premier article de la Confession de foi. Son autorité seule et souveraine. Dans certains domaines, en mathématiques par exemple, je crois qu'on pourrait dire que d'autres autorités peuvent être souveraines que l'Écriture sainte. S'il arrive à l'Écriture sainte de dire quelque chose en matière mathématique, nous l'accepterons entière confiance. Il ne semble pas qu'elle ait dit grand-chose. Mais nous pouvons avoir des autorités que nous considérons comme pratiquement souveraines. Ou en matière de sciences diverses, on peut dire en un sens que les faits sur lesquels porte notre expérimentation, ont une autorité souveraine. Alors si on dit autorité seule et souveraine, il faut limiter le domaine sur lequel c'est la Bible qui nous informe. Elle touche éventuellement autre chose. Bon, alors là, nous la respecterons, mais elle nous parle de ce qui concerne notre foi et notre vie. Pour être entièrement rigoureux, il faut employer le langage qui a été employé ici, autorité seule et souveraine, dans toutes les questions qui touchent à la foi et à la vie. Et j'en arrive à ma conclusion. Premier point, cette confession de foi n'implique aucune bibliolâtrie. La rigueur avec laquelle nous affirmons c'est la parole de Dieu entièrement digne de confiance ne signifie pas que nous adorions la Bible au lieu d'adorer Dieu. La Bible est un instrument en lui-même. Ce livre, je ne parle même pas du papier, mais du texte, n'est qu'un ensemble de signes créés. Les signes n'enclosent pas la réalité auquel ils nous réfèrent. C'est un instrument pour la communication de la connaissance personnelle de Dieu. L'entière sûreté de cet instrument n'en fait pas une idole. Aucune raison de confondre, là encore, deux choses tout à fait différentes. Deuxième point, cette position n'est pas la bizarrerie d'une secte extrémiste. Vous savez déjà que le GBU n'est pas une secte extrémiste, autrement vous ne serez pas là. Mais soyons conscients du fait que cette position que nous défendons est la position historique des pères de l'Église, des réformateurs, malgré ce que Luther, dans les éruptions volcaniques de son tempérament, a parfois pu dire, qui est difficile à comprendre, les réformateurs en général, toutes leurs confessions de foi, et même bien des paroles de Luther aussi, celles de Calvin parfaitement nettes, ont eu exactement la même position. Les hommes de réveil, jusqu'à nos jours, c'est la position du christianisme qui nous a apporté la connaissance personnelle de Jésus-Christ. Et troisième point, l'importance de cette doctrine qui est mise en tête ici est stratégique. Dans sa précision et dans sa rigueur que j'ai essayé de marquer, on ne peut pas dire que ce soit une doctrine qu'il faille connaître pour être sauvé. Elle n'est pas dans le symbole des apôtres, dans le credo, par exemple. Mais elle est stratégique, c'est un verrou stratégique à la frontière du pays. C'est-à-dire que si vous la récusez, si vous la rejetez, alors vous ouvrez la porte, non pas en fait nécessairement ou toujours, mais en droit, et c'est là que l'affaire devient grave, à toutes les fausses doctrines dont la nocivité est prise tellement au sérieux dans le Nouveau Testament. À partir du moment où vous admettez que la Bible n'est pas entièrement digne de confiance, que vous pouvez la reprendre et la corriger sur tel ou tel point, de quel droit refuser à quelqu'un qui n'est pas d'accord d'enseigner des vues contraires à la Bible parmi vous? Elle n'a pas le droit. Vous avez admis vous-même qu'elle n'est pas entièrement digne de confiance. C'est là qu'elle a une importance stratégique pour protéger notre obéissance. Que cette obéissance reste cohérente. Pour eux, elle sera toujours vulnérable et insuffisante, mais pour la protéger des plus grands égarements, protéger notre obéissance à la parole de notre Dieu.